Mishka.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par éveiller ma curiosité.
Couleur Tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Alice Ménard, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira Zanuto, bonne arrivée la famille, et en particulier à la génération consciente, celle désireuse de mieux comprendre notre monde, celui d'aujourd'hui, bâti, entre autres, sur des épisodes qui, en ce début de 21e siècle, restent de véritables nœuds, des obstacles à la cohésion nationale au sein de pays anciennement colonisateurs et ou nés du fait colonial. Nous allons, avec notre invité, beaucoup parler d'Afrique. Et pas seulement, car le combat contre la colonisation et ses résidus nocifs, les actions de beaucoup pour un enseignement de ce que furent les épisodes coloniaux et leur cortège de crimes sont des luttes et des engagements, des enseignements universels.
Dis donc, toi l'invité.
Ok.
Claudie va te poser des questions.
Ok.
Et tu vas lui donner les bonnes réponses.
Pascal Blanchard, bonne arrivée. Merci d'être notre hôte, notre invité.
Merci.
Pour ce moment exceptionnel avec toi.
Un grand plaisir d'être là, Claudie.
Et puis nos propos seront illustrés, surtout les tiens, seront illustrés de quelques musiques qui datent du début du XXe siècle et d'autres un petit peu plus récentes, afin de mieux comprendre justement cette colonisation. Alors, vient de s'achever à Paris aujourd'hui un colloque baptisé Passé colonial.
Tout à fait.
C'est donc toute l'histoire du passé colonial français, mais pas seulement. Alors, quel était l'objectif ? Alors voilà, c'est ça ma question. Quel était l'objectif de ce colloque ? Parce que certains diront, est-ce un colloque de plus ? Est-ce que ce fut un colloque de plus ? Très demandé, très couru, et tout le monde n'a pas pu y participer et y assister.
Oui, c'est au Musée de l'Homme aujourd'hui, une belle journée, parce qu'on a décidé d'avoir des angles d'attaque sur la question qui nous oblige à penser autrement. On en fait quoi de ce passé colonial ? Ça fait 60 ans que les accords d'Évian ont mis un arrêt à la guerre d'Algérie. Pour autant, depuis 60 ans, on n'a pas beaucoup avancé sur nos mémoires. Il y a des conflits mémoriels, il y a des débats historiques, certaines questions même. Regardez la guerre du Cameroun, nous on est à peine en train d'ouvrir, potentiellement dans les semaines qui viennent, une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé au Cameroun.
On va en parler tout à l'heure.
Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas encore répondu à la question, on en fait quoi de ce passé colonial ? Et je pense que ce qui a intéressé dans ce colloque, c'est que la question est parfaitement posée. Elle est simple, on l'enfouit, on continue à l'enterrer, on essaye petit à petit de grignoter quelques points pour en parler aux nouvelles générations qui sont demandeurs, on prend toutes les statues coloniales, on les détruit, on efface les traces, ou alors on essaye de construire des lieux pour réfléchir ensemble, parce que nous n'avons pas la même mémoire, mais nous avons la même histoire.
L'intitulé est justement « Un nouveau regard sur le passé colonial ». C'est ça l'idée d'avoir un nouveau regard ?
Oui,
et les actions qui vont avec ?
Oui, parce que la nouvelle génération déjà pose un nouveau regard sur ce passé. Nous-mêmes qui avons porté, Claudie, toi comme moi, pendant des années, et nous avons débattu sur ces questions, nous arrivons avec ce background, ce passé quelque part dans le passé, avec la manière de l'avoir appréhendé. Et puis on le regarde plus non plus maintenant de la même manière en fonction d'où on se situe. Les deuxième, troisième, voire quatrième génération trouvent que le temps est un peu long pour arriver à regarder ce qui s'est passé pour leurs grands-parents ou leurs parents avec un regard lucide et qui est capable de s'intégrer quelque part à l'histoire nationale. Et puis il y a ceux qui résistent. On se dit, mais attends, les acteurs de l'histoire ont disparu. Pour autant, la vieille nostalgie n'a pas disparu. Donc on voit bien que ce n'est pas aussi simple de penser que ceux qui ont fait les conflits d'hier, partant, ils allaient laisser une place neuve. Non, les conflits sont toujours là.
Avec Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire, Dominique Thomas, tu viens de faire paraître aux éditions Philippe Rey, Histoire globale de la France coloniale. Qu'est-ce qui a motivé, pour ajouter à ton propos, qu'est-ce qui a motivé ce nouvel ouvrage ? Certains diront... C'est un nouvel ouvrage sur la question coloniale.
Ils ont raison. C'est un nouvel ouvrage, mais en même temps, on pourrait même aller beaucoup plus loin, c'est un nouvel ouvrage avec des textes qui avaient déjà été publiés. Pourquoi ? Quand on rencontre aujourd'hui, et quand on dictasse nos livres dans des festivals ou qu'on rencontre des jeunes, ils pensent que l'histoire coloniale n'a pas été écrite. En gros, qu'on n'a pas fait notre travail. En gros, que les aînés n'auraient pas travaillé. Alors je leur dis, mais vous avez lu ça. Vous avez été voir les auteurs en Angleterre, en Afrique du Sud, au Sénégal, aux Antilles, au Vietnam, en Algérie, au Maroc, ce qu'ils ont produit ? Ils disent, ben non. Alors on va vous expliquer que ceci a déjà été et bien fait, avec des débats contradictoires, mais bien fait par des centaines d'historiens. Et la meilleure manière de le dire, c'est de le montrer. Donc ce livre, il rassemble, pour nous, les 110 articles qui nous ont fabriqués depuis 25 ans. Certains parlent d'économie, d'autres vont parler du code de l'indigénat, d'autres vont parler de la conquête coloniale, d'autres de l'esclavage, des abolitions, des mémoires, des restitutions. D'autres vont aller sur des sujets sur la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, trop souvent oubliées quand on parle de l'histoire coloniale dans sa globalité. Et on les met bout à bout. Et on dit, regardez, Tout le monde n'est pas d'accord. Mais ce travail a été fait, et souvent bien fait. Il y a des auteurs dans ce livre dont je ne partage pas forcément les idées, mais qui ont fait des articles brillants pour faire que nos cerveaux se posent la question de ce qu'a été le passé colonial. Et d'un seul coup, en un livre, ça ne veut pas dire qu'il faut détruire tous les autres de sa bibliothèque, vous avez déjà un condensé, en gros, de 1750 à nos jours, de ce qu'a été sur près de, je le rappelle, 50 pays dans le monde aujourd'hui indépendants, une histoire coloniale transversale qui a touché plusieurs continents, tous les océans, qui nous a fabriqués tels que nous sommes, toi et moi, aujourd'hui. Totalement. Parce que c'est l'histoire, tout simplement, de nos ancêtres. Une histoire, en fait, beaucoup plus longue qu'on peut l'imaginer, avec des soubresauts et des moments de bascule essentiels à comprendre, à maîtriser. Et puis des débats dont on mesure à peine aujourd'hui les effets. Comment, par exemple, dans le droit français, un moment, on a pu inventer l'indigénat.
Pascal Blanchard, je vais te poser une question à laquelle je ne souhaite pas que tu répondes maintenant, mais à la fin de notre entretien. La colonisation est-elle un crime contre l'humanité ? Tu répondras tout à l'heure. On va commencer ce chapitre musical avec un artiste guinéen. Il s'appelle Alpha Wes. Le titre de sa chanson, Le choc des cultures. Écoute bien le texte.
On était chez nous. On était chez nous. On était civilisés là, civilisés là. On était chez nous.
On était bien chez nous.
On vivait en communauté.
On était aisés chez nous.
On bossait pour nous. Les soirs, on faisait les contes et les légendes. Sous les arbres à palabres. Choc des cultures, l'air bateau s'est accosté. Ce choc des cultures nous a désorientés, désorientés. On était chez nous,
on était bien chez nous.
On était chez nous,
on était aisé chez nous.
On était civilisés là, civilisés là. On ne connaissait pas l'argent. On ne connaissait pas ABCD. On ne connaissait pas l'alcool. On était chez nous.
On était bien chez nous.
On était chez nous.
On était chez nous, chante le reggaeman guinéen Alpha Wes dans Le choc des cultures. Alpha Wes, donc fils de cette terre guinéenne, et bon nombre de Guinéens ne voient pas par exemple le général de Gaulle comme étant un grand homme parce qu'il était opposé à Sékou Touré. Et est-ce que justement ce type de regard différent pour la France, le général de Gaulle est un grand homme évidemment, et on peut le comprendre. Est-ce que ce genre de regard justement très différent sur un tel personnage explique que le débat soit difficile, voire impossible dans l'apaisement sur la question coloniale? Je suis provocateur en disant
non,
ça.
Non, bien entendu, le général de Gaulle est en France une figure emblématique, une figure incontournable de notre récit national. C'est l'homme qui, quelque part, s'est levé en 1940 contre la défaite. Donc, il y a une forme de vision du héros national parfait. C'est le grand homme politique du XXe siècle. Donc, on a encore beaucoup de mal à regarder son passage des décolonisations à travers une grille de lecture, je dirais, plus vierge, plus neutre. Par exemple, on oublie complètement que c'est lui qui est au pouvoir au moment des événements de Syrie et du Liban. Le bombardement de Damas le 8 mai 45, il est là. Comme il est là, d'ailleurs, pour les événements dans le Constantinois de mai 45. C'est pas le même général de Gaulle que celui de 58. Et puis, l'histoire de la Guinée, c'est pas la même histoire que celle du Sénégal et la Côte d'Ivoire. La Guinée, c'est le seul pays au référendum de 58 qui dit non au général de Gaulle. Et le général de Gaulle le fera payer extrêmement cher à Sékou Touré et aux Guinéens. Donc, vous voyez, en fonction d'où on se place, des époques qu'on choisit, le parcours du général de Gaulle, la manière dont on va lire son récit face aux histoires de la colonisation n'est pas du tout la même. Et c'est normal. Sauf que nous avons pris une forme de distance maintenant. Nous parlons d'une histoire qui a maintenant plus de 65 ans. Il est peut-être temps, parce qu'il y a une nouvelle génération d'historiens, parce qu'il y a un dialogue entre nous tous sur cette histoire, parce que nous n'avons pas les mêmes mémoires, mais nous avons la même histoire, d'être capable de se mettre à la regarder. On peut avoir des points de vue différents, mais d'être capable de poser les éléments du débat. Et de sortir de cette vieille guerre des mémoires, que chaque génération en fait refabrique pour mythologiser d'une certaine manière son propre récit. Et c'est valable ce que je dis de l'autre côté. Sékou Touré est autant un mythe aujourd'hui qu'on a du mal à regarder avec un regard critique en Guinée que nous avons du mal à regarder le général de Gaulle avec une lecture critique sur l'histoire de la décolonisation. Nous devons sortir de ces pièges, quelque part, que la mémoire impose à l'histoire.
Alors justement, regarde des deux côtés de la Méditerranée. Y a-t-il un enseignement suffisant sur de la question coloniale en France ? Et je pourrais également te poser la question, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, en Afrique, une jeunesse africaine ne connaît pas en réellement cette histoire-là.
Tout à fait. Il y a un travail majeur. Alors en France, si on s'était posé la même question il y a 25 ans, on aurait tous les deux fait un constat totalement dramatisé de nos manuels scolaires et de l'enseignement. Tout a changé en 25 ans. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Mais tout a changé. C'est-à-dire que ce qu'on enseigne aujourd'hui n'est pas ce qu'on n'enseignait pas il y a 25 ans. En même temps, il faut regarder ce qu'on enseigne. Et qu'est-ce qui se passe dans les manuels scolaires ? C'est que l'histoire coloniale, elle est encore à côté de l'histoire nationale. Ça veut dire quoi, ce petit mot « à côté » ? Ça veut dire que certes, on parle d'un certain nombre de sujets, mais on ne les mixe pas, on ne les mélange pas, on ne les appréhende pas, on ne les regarde pas comme faisant partie aussi du récit français. On ne comprend pas pourquoi la crise économique, par exemple, dans les années 30 en France, elle n'impacte pas la France comme d'autres pays parce qu'on a un empire. On parle des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est la guerre d'Indochine, c'est la guerre du Cameroun et c'est la guerre d'Algérie. Vous avez vu comment d'un coup le mot 30 glorieuses va moins bien avec 15 ans de guerre non-stop ? Tout ça veut dire que l'histoire coloniale n'est pas encore aujourd'hui enseignée dans l'espace du récit national. C'est-à-dire qu'elle est à la fois un récit international, on parle d'Afrique, on parle d'Asie, on parle d'Océanie, on parle d'Amérique, et, je dis bien et c'est fondamental, on parle aussi d'histoire de France. Et les deux devraient aujourd'hui être entremêlés dans le récit tel qu'on le transmet.
Alors justement, comment est-ce que la France du 19e siècle et du début du 20e siècle vend-elle l'aventure coloniale à son peuple ?
Elle le vend très bien. Elle le vend très bien parce qu'elle part d'un postulat que les Français sont d'abord contre la colonisation. Alors aujourd'hui, quand on dit ça, les gens sont surpris. Ben oui. Expliquer aux gens qui sont paysans, par exemple, qu'il va falloir aller faire du vin en Algérie qui va venir concurrencer leur vin français quand on est du Midi. Expliquer qu'il va falloir faire du bétail et que ce bétail va être en concurrence avec le bétail produit dans l'Hexagone. Demandez à un paysan français ce qu'il pense à la fin du 19e siècle de l'Empire colonial. Il considère que c'est de l'argent dépensé inutilement, que ça n'apporte rien à la grandeur coloniale et nationale de la France et que c'est des produits concurrentiels. Donc, quand vous avez un problème, vous faites de la propagande. C'est comme la publicité. Si on fait de la pub, c'est qu'il faut vendre des produits. Si on fait de la propagande, c'est qu'il faut faire passer un message. La France va être un des principaux pays, avec la Belgique et l'Angleterre, de cette force, cette envie, cette nécessité, ce besoin des hommes politiques, qui allaient, parce que d'abord, essentiellement, il n'y a que des hommes, de créer une structure de propagande qui va parler au quotidien des Français. Qui va leur vendre quoi ? Les Français ne sont pas comme les autres. La mission civilisatrice. Nous apportons les lumières de la République et de la Révolution française aux quatre coins du monde. Nous ne colonisons pas comme les autres. Nous sommes des libérateurs. D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'on disait. En touchant le drapeau français, l'Africain se libère de l'esclavage. Et on va fabriquer une mythologie. Mais pour la fabriquer, il faut la transmettre. Il faut faire des films, il faut faire des affiches, il faut avoir des photos. On a inventé une agence de propagande dont c'était le métier. Dites-vous que tous les matins, il y avait des fonctionnaires qui allaient à l'agence économique des colonies et qui fabriquaient des centaines de milliers d'images pour raconter ce récit colonial. Et à un moment, ça marche. Pourquoi ça marche ? On a tous envie d'un rêve. L'Amérique, c'était le western. Nous, ça a été les colonies. Et les gens ont été, quelque part, fascinés. Ils allaient à l'Expo coloniale le 31, 33 millions de tickets vendus. Eh bien, ce rêve colonial, cette notion de puissance, et on fabriquait une image comme si là-bas, tout était idéal. Tout allait parfaitement bien. Même l'inégalité des droits était légitime parce qu'il fallait emmener ces peuples à la lumière.
À quel moment on déshumanise justement ceux que l'on a colonisés ? À quel moment les thèses de Darwin, Gobineau et de tant d'autres deviennent vérité pour les populations ?
Elles deviennent vérité à partir du moment où on le montre et on démontre qu'on n'est pas en train de voler des terres, mais on est en train d'apprendre à un paysan algérien à la cultiver. On le démontre à partir du moment où on fait dormir un jeune homme africain au pied d'un cocotier en expliquant que si on n'est pas là avec la chicotte, il ne travaillera pas sur la voie du Congo-Océan. On le démontre en démontrant que les Indochinois ne comprendront jamais les grandeurs.
En oubliant, je suis désolé de te couper, en oubliant ce que le Congo-Océan a engendré de morts, de villages
déportés. On ne le raconte jamais. Ouais. On ne raconte jamais l'effet collatéral de ce qu'on apporte. Et donc cette fabrication de dire tout ça est normal, pour nous aujourd'hui c'est anormal, pourquoi ? Parce qu'on a pris 70 ans de distance, mon ami. Mais à l'époque, nos arrière-grands-parents et nos grands-parents étaient bercés par une mythologie puisqu'il n'y avait qu'une seule image produite. Il n'y avait pas une contre-image, il n'y avait pas une contre-télé, une contre-radio, il n'y avait pas des gens qui faisaient des films anticolonialistes. Tout ça était une image unique.
Alors, on leur propose justement de, si je puis dire, de toucher du doigt ces terres coloniales, cet empire français par les eaux humains.
En 2019, tu proposes Sauvage au cœur des eaux humains, que tu réalises avec Bruno Victor Pujbé. Extrait.
On va leur demander de jouer aux cannibales alors que ces gens qui étaient exhibés n'étaient absolument pas des cannibales. C'est du cinéma, en fait, qu'on leur demande.
Avec les eaux humains, le racisme devient populaire, ordinaire. On vient voir le sauvage, toujours plus exotique, plus terrifiant et désormais mis en scène. Il se nomme Tombo, aborigène d'Australie. Otabenga, pygmée du Congo. Petite Kapline, fuégienne de Patagonie. Jean Thiam, Wolof du Sénégal. Marius Kaloé, Kanak de Nouvelle-Calédonie. Moliko, Kalina de Guyane. Comme eux, des milliers de personnes ont été exhibées. L'histoire a oublié leur nom.
Pascal Blanchard, on vient d'entendre la voix d'Abdelmalik.
Qui était avec nous aujourd'hui au colloque au Musée de l'Homme.
Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Quelle position, puisque la colonisation va de pair, même si les missionnaires chrétiens catholiques ont devancé un petit peu la colonisation, mais quel rôle joue l'Église catholique, l'Église protestante, dans ce qui nous est donné de voir, c'est-à-dire la déshumanisation d'êtres humains?
C'est exactement comme au moment de l'esclavage. Il faut à la fois christianiser, tout en niant à l'autre d'avoir une âme qui est l'équivalente de la nôtre. Ils peuvent être des bons chrétiens, mais il leur faudra très longtemps pour être des chrétiens. Rappelez-vous, ces textes bibliques ont supprimé toutes les phrases sur la liberté au temps d'esclavage. Et bien là, on fabrique une forme de missiologie, de discours messianique, de discours, à la fois, vous l'avez très bien dit, protestant et catholique, parce que c'est très important à comprendre, qui n'a plus rien à voir avec le discours de la séparation de l'Église et de la République dans l'Hexagone. Je donne un exemple qui est étonnant, mais quand on regarde les images emblématiques de la République, vous avez Marianne, une femme qui symbolise la République, à ses côtés le soldat, et juste à ses côtés le missionnaire. C'est-à-dire qu'aux colonies, tout le monde est uni pour emmener ces populations vers la lumière, y compris la lumière de Dieu. Et c'est là où on se dit, mais le système était parfaitement pensé. Même l'âme n'était pas oubliée.
C'est-à-dire qu'il n'y a à ce moment-là, il n'y a pas un abbé Grégoire, comme du temps de l'esclavage, il n'y a pas un personnage qui se dresse contre ça.
Non, parce que la colonisation, à la différence de l'esclavage, elle prétend amener l'autre à la lumière. Elle prétend faire œuvre de civilisation. Elle prétend être l'héritière de la Révolution française. Elle libère. La colonisation libère. Nous avons compris que la colonisation ne libérait pas. Mais quand vous avez cette image, vous voyez un Africain qui touche le drapeau de Brazza. Et qu'à ce coup, il est devenu un homme libre. Il se serait libéré des ténèbres, mais il n'est pas encore dans la lumière. Quelque part, la République française fait ce cheminement vers la lumière. Et donc, vous cherchez quelqu'un qui va s'opposer à en fait un acte de presque un bienfait. C'est tout le paradoxe de ce tour de manipulation incroyable, à un moment qu'il ne faut pas oublier pour nos auditeurs de rappeler, où le discours sur la race, le racisme savant, est dominant. C'est celui qui est enseigné dans nos écoles, c'est celui qui est enseigné dans nos universités, c'est celui qui est professé par les hommes et les femmes politiques, c'est celui qui est porté par toute la nation, toute l'Europe, l'Amérique et le Japon compris. C'est celui qui est à la base même de l'idée coloniale. Il y aurait des races différentes, des races supérieures, des races inférieures. Nous sommes dans un temps où nous apprenons ça à l'école. Un enfant de 8, 9, 10, 12 ans a ça dans son manuel scolaire. Si vous aviez ouvert le Hatier en 1959, c'est hier, 1959, ouais. La dernière page titrait « Pourquoi l'homme blanc guide la Terre ?»
Victor Hugo lui-même, lors d'une soirée de cérémonie d'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, lui-même dit qu'il est pour la colonisation et il dit « envoyons nos prolétaires et qu'ils deviennent des propriétaires sur ces terres coloniales ».
Mais c'est ce qui a été fait.
C'est ce qui a été fait.
On a envoyé à la fois les révoltés,
ouais.
Rappelez-vous le bagne à la fois Nouvelle-Calédonie. On a envoyé les prostituées,
ouais.
Parce qu'il fallait des femmes. Ouais. On a envoyé les ouvriers en considérant qu'ils étaient dangereux dans nos bas-fonds et dans nos bas-quartiers.
Ouais.
Et on a envoyé tous ceux dont on ne savait plus quoi faire. Comme si, rappelez-vous les films comme Pépé le Moko,
ouais.
Celui qui devient un paria dans l'Hexagone peut d'un seul coup peut-être être un héros dans les colonies.
N'est-ce pas ce qui se passe encore aujourd'hui? C'est-à-dire que beaucoup de jeunes Africains vous diront, et pas seulement, vous diront que lorsque débarquent en France. Ils sont perçus comme des étrangers, des migrants selon les conditions dans lesquelles ils sont venus. Et lorsqu'un blanc débarque sur leur terre, il est déjà patron. Il est considéré déjà comme étant un patron.
Ceci s'est fabriqué à l'époque de la colonisation. Comme si celui qui arrivait avec tout un héritage derrière lui de supériorité.
Bonne arrivée si vous nous rejoignez pour ces couleurs tropicales spéciales. Pascal Blanchard, l'historien, est notre invité, celui qui permet justement, j'allais dire une vulgarisation, en tout cas une meilleure connaissance et compréhension de l'histoire coloniale et de toutes ces histoires qui encore aujourd'hui sont des nœuds dans la compréhension de ces épisodes-là, mais surtout, et c'est bien plus grave, dans la possibilité de dialogue réel entre les peuples de la planète. Histoire globale de la France coloniale, 812 pages. Qui regroupe donc des écrits, tu l'as dit tout à l'heure, de plusieurs époques et de spécialistes sur la question. Je voudrais te faire écouter la chanson de Michel Sardou. Cette chanson-là, tu la connais.
Oui.
On écoute un extrait et on en parle dans un instant.
Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la OEF. J'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies.
On pense encore à toi, au Rwanda. Dis-nous ce que t'as pas, on en a.
Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense.
On pense encore à toi, au Rwanda.
Monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Autrefois à Colombécha, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit, au temps béni des colonies.
On pense encore à toi, au Rwanda.
Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense.
En France, ça a des idées, nous on pense. Ça a été le slogan des années 70.
Tout à fait.
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On s'en souvient. Pascal Blanchard, Michel Sardou, il y a quelques années, s'est défendu que cette chanson soit une chanson raciste. Juste rappeler que le texte a été écrit par Pierre Delanoë. À ton avis, ton regard, toi, était-il là dans une moquerie de la période coloniale? Était-il plutôt dans un regard, mais plutôt sympathique, sur « allez, tout ça, c'est le passé », ou dans une dénonciation du colonialisme?
Il était d'abord piégé par ce qu'on pourrait appeler le bain colonial. Cette histoire, il la regardait avec une part de nostalgie, un peu d'ironie aussi, et c'était à la fois la grandeur de la France, en même temps, on commençait à prendre une distance, on était une quinzaine d'années après les indépendances. Ce que peu de gens rappellent, c'est que quelques radios ont refusé de passer à l'époque, c'est l'une des premières fois, ce titre. Il y avait déjà une conscientisation que cette histoire n'était plus possible de leur raconter comme ça. Vous avez entendu les paroles.
Ouais.
Il nous raconte aussi l'histoire où on se retrouve avec quatre jeunes femmes, comme si c'était ça, le cadeau de la coloniale.
Ouais.
C'était un peu le dessert et le repas du colonial qui s'installait au colonial. Donc vous voyez, il y a à la fois de la dérision, mais il y a aussi de la justification. Il y a un peu un esprit bien colonial qui demeure, une forme de gloriole qui n'avait jamais disparu chez Sardou, qui toujours savait très très bien nous vendre la plus grande France. En fait, il était le fruit de son temps. Il est le parfait reflet de ce que devaient penser la plupart des Français à l'époque. On a perdu cet empire, certes, mais d'une certaine manière, il y a une grande fierté. C'est même presque avec une forme d'ironie qu'on peut en parler.
Tu as écrit sur cette question-là, sur la question sexuelle durant la colonisation. Certains, d'ailleurs, s'en sont offusqués en disant « Peut-on montrer tout ça? Peut-on dire tout cela? Peut-on montrer l'horreur ?» Alors qu'aujourd'hui, on est justement dans un questionnement, dans un besoin, dans une urgence même, d'enseigner à tous, et de la façon la plus juste, d'enseigner ce que fut les périodes ou la période coloniale. Et si on ne dit pas ça, on ne dit peut-être rien de cette déshumanisation dont on parlait tout à l'heure.
Oui, parce que c'est très complexe d'expliquer quelque chose qui n'a pas laissé de traces archivistiques en termes de texte. Les femmes, dont les corps ont été violentés, n'allaient pas porter plainte au commissariat. Il n'y a donc pas de traces archivistiques pour mesurer ce qu'a représenté, non pas simplement la conquête des terres, mais la conquête des corps. Le fait de pouvoir disposer de ces corps aux colonies, et on remonte au temps des conquistadors. Ça a duré 5 siècles. Et cette domination, elle a, quelque part, aucune archive écrite. Elle n'a pas de récit posé, sauf très tardivement. La seule trace qui reste, c'est la gloriole de ceux qui dominaient ces corps, par les images qu'ils en ont produites. En fait, c'était leur butin, leur safari visuel. Ils racontaient leur eldorado sexuel. Donc, passer par ces images, c'est la seule preuve, démonstration que l'on peut faire pour faire comprendre que ceci a été, mais massif, total, global, exactement comme l'explique ce livre.
Je voudrais maintenant que l'on écoute quelques chansons du début du XXe siècle, quelques chansons coloniales. Et nous allons commencer avec quelqu'un, Père Chico, qui lui va jusqu'au bout. C'est-à-dire même les slogans, les marques que l'on connaît bien, et puis le négro et le négrillon sont au cœur de sa chanson.
Sur le refrain d'une chanson nouvelle, tout en dansant la rumba, le petit négro s'approchant de la belle, lui dit je sens que j'ai l'âme. Mon cœur qui bat pour vous, mademoiselle, je voudrais vous placer ma conversation claire à l'espirituelle, tout en dansant la rumba. La morale de cette aventure-là, mademoiselle, chacune le comprendra. Ne faites pas comme cette jeune fille a fait, cela ferait tourner votre lait. Si vous voulez vous marier en blanc, méfiez-vous d'un noir extravagant. Car le noir, enfin, souvent ça déteint, vaut mieux prendre un beau rouquin. Sur le refrain d'une chanson nouvelle, tout en dansant la rumba, le petit négro s'approchant de la belle, lui dit je sens que j'ai l'âme.
Danser sur ce petit air qui jase, comme Joséphine Baker sans gaz, carnaval ce soir blanchit les idées noires, et avant, c'est le refrain des négrillons.
C'était un petit négro, tout ce qui est de rigolo, il avait dit l'histoire de jolies dents blanches dans une bouche toute noire. Quand Amélie recevait, c'est lui qui servait. Et le joli négrillon passait les bonbons en disant aux gens, y a bon.
Voilà, y a bon avec Père Chico, y a bon avec Nobad et ses Nobadiens. Et puis là, on vient d'entendre la voix d'un des plus grands comédiens français. Un homme, moi, il est dans mon pantalon des comédiens, mais je n'oublie pas ces chansons-là. C'est Michel Simon.
Tout à fait, c'est la culture de l'époque. Et quand vous le faites comme vous venez de le faire, là, Claudicia,
ouais,
vous êtes
vois,
en train.
Tu me vous vois.
Non, mais au sens, vous êtes là, un chercheur, parce que vous allez montrer ce qui sont les traces mais de oui. ce qu'on appelle, et qui est des fois très dur à comprendre, le bain de l'époque. Ce bain colonial, il était assez naturel de se moquer de l'autre, il est assez naturel de jouer sur le stigmate, il est assez naturel de rappeler sa place sociale. Il est serviteur, il nous fait rire, il distribue des bonbons, il peut être un tirailleur, mais en même temps, il nous amuse. Et on voit bien qu'avec ces mots, comment le langage populaire a repris le discours savant ou le discours officiel, on a fait un discours qui passait par la musique, comme vous pouvez passer par le théâtre, la littérature, la bande dessinée, le dessin de presse ou la carte postale, et fabrique ce qu'on appelle la normalité de ce qui doit être en fin de compte anormal. C'est-à-dire qu'on nous raconte une forme de monde idéal où il y a un guide blanc, sous un casque blanc, qui va aux colonies, et aux colonies, il y a des êtres qui sont un peu différents de nous. Rappelez-vous les mots qui viennent d'être employés, négro, négrillon, qui d'un seul coup donc sont pas dans la même humanité que nous. C'est un peu ce qu'avaient déjà fabriqué les zoos humains à l'époque. Et tout ça fabrique une culture où les gens ne doutent pas au final. Car tout leur environnement, bien au-delà de la propagande d'État, la culture populaire, là nous venons de parler de la culture de la rue, de la culture du théâtre, de la culture du spectacle, du micro-sillon, celle qui fait notre quotidien, celle qui nous amuse, celle sur laquelle on danse, au bistrot, on l'entend, ça devient la norme.
Dans le discours sur le colonialisme, Aimé Césaire dit « Moi, je parle, en parlant de la colonisation, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possibilités supprimées. »
Tout à fait, il parle de ce qu'a été un système. Le système colonial. C'est pas juste des gens qui ont pris des bateaux, qui se sont accaparés des terres, qui se sont installés, qui sont partis un jour. Dans cette histoire, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Et nous devons en prendre aujourd'hui conscience. Et c'est pour ça qu'il est temps de raconter cette histoire, non pas juste avec de l'émotion ou du rejet, cette histoire, mais de la raconter dans tout ce qu'elle a été, dans ses mécanismes. Car nous sommes en fait seulement maintenant audibles à la réalité de ce qu'a été le passé colonial.
On l'a juste évoqué, tu l'as juste évoqué, la guerre, de façon plus concrète. Tu parles justement de toutes les guerres menées et tout ce qu'elles ont engendré dans décolonisation du sang et des larmes que tu as réalisé avec David Cornbzosa. On en écoute un extrait et là il est question du Cameroun.
Pour nettoyer la région, les troupes françaises appliquent les méthodes de contre-guérilla imaginées à Madagascar, affinées en Indochine et utilisées au même moment en Algérie. Des villages sont anéantis à coups de napalm. Une guerre cruelle dont les Français de métropole ignorent tout. Oum Niobe décrit la situation. Des villages entiers sont complètement pillés et brûlés. Le bétail est systématiquement abattu à coups de fusil. Ce qui échappe à cette tuerie massive sont poursuivis en pleine brousse par les forces de l'ordre. Après des mois de terreur, les maquisards de l'UPC sont anéantis. Repéré, Ruben Umniobe est abattu.
Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'on tue Umniobe, son corps est traîné sur des kilomètres pour le défigurer.
Il pleuvait ce samedi. Et donc, ils l'ont traîné dans la boue. Visage défiguré, tuméfié. C'est à peine s'il est habillé. Il faut montrer que cet homme, il a été défait.
Je pense qu'on voulait vraiment démontrer à ceux qui auraient l'idée de se rebeller comment est-ce qu'ils allaient finir. De dire que c'est cet homme-là qui haranguait les foules, qui était un tribun incroyable, doté d'une intelligence incroyable, pouvait finir comme ça, complètement défiguré. C'était un moyen vraiment de pouvoir amener les gens à abandonner le combat, puisqu'il fallait complètement traumatiser ceux qui pouvaient encore croire en lui, quoi.
La voix du narrateur est celle du comédien afro-caribéen de la Martinique, Lucien Jean-Baptiste. Et puis, on vient d'entendre celle de l'artiste Blik Bassi, camerounais, qui a consacré d'ailleurs un album, 1958, à Umniobe, à la résistance de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun. Et puis, on a également entendu Achille Mbembe, qui lui aussi était aujourd'hui donc au Musée de l'Homme pour le colloque « Un nouveau regard sur le passé colonial ». Cette archive-là, elle en dit long sur l'extrême violence, voire même la barbarie dont la France a fait usage pour mater les rébellions dans ses colonies.
La guerre du Cameroun, c'est la troisième conflit de ces 30 glorieuses où la France est en permanence en guerre. Ce qu'on a du mal à comprendre, donc 30 glorieuses permanentes. Et cette guerre, elle est invisible pour deux raisons. Parce que d'abord, la France décide qu'elle est invisible. À côté de la guerre d'Algérie, il ne faut pas montrer sur cette terre qui est un mandat. Le Cameroun n'est pas une colonie.
Exactement.
À l'ONU, qu'il y a un conflit armé. Et pas un petit conflit. Vous l'avez entendu, on parlait du napalm et d'autres choses. Et puis, c'est une guerre que la France va gagner. Elle va la gagner, elle va vaincre.
C'est l'UPC. La seule guerre qu'elle gagne.
Exactement, la France va rester à côté des forces camerounaises jusqu'en 1971 sur le territoire. Et d'une certaine manière, aujourd'hui encore, pour ça que cette histoire du Cameroun est une histoire malaisée, ou que la France a beaucoup de mal à l'appréhender, et que le président de la République, Emmanuel Macron, vient d'annoncer qu'une commission avant la fin d'année allait se mettre en place pour la regarder en face, c'est une guerre dont on ne veut pas parler. Si vous ouvrez avec vos enfants, Claudie, un manuel scolaire, et que vous regardez les indépendances en Afrique de l'Ouest, le titre c'est « Les indépendances pacifiques ». Eh bien, quand vous prenez l'épisode du Cameroun, je ne sais pas où est le pacifisme dans cette guerre. Elle a été d'une violence absolue.
Mais j'ai vu plusieurs manuels scolaires dévolus à l'histoire en Afrique francophone. L'histoire commence à la colonisation.
Mais bien sûr.
Comme si et donc, c'est terrible. Donc, de part et d'autre, que ce soit en France ou en Afrique, il y a un problème sur cette histoire, sur le récit, sur la façon de raconter, de relater ce que furent les épisodes coloniaux.
Bien sûr, parce que d'un côté, ça a légitimé les frontières. Les régimes souvent en place, les élites en place dans certains de ces pays, la manière même de penser la nation dans ces territoires. Et en France, c'est une histoire invisible dont aujourd'hui on a honte, c'est une histoire dont on ne veut pas regarder la réalité en face, c'est une histoire qui est une tâche et en même temps elle correspond à la grandeur de la France. Des deux côtés, personne ne veut regarder en face cette histoire. Donc tout le monde s'arrange pour la regarder de biais.
La Belgique la joue autrement, si je
La Belgique, dire. L'Allemagne, le Royaume-Uni avec le Kenya est en train de changer aussi, mais devant une cour de justice.
Oui.
La Belgique, parce que le phénomène s'est accéléré depuis 3 ans, notamment avec l'Africa Museum et la restitution et les commissions qui sont mises en place. L'Allemagne, d'une manière assez étonnante, peut-être parce qu'elle avait déjà travaillé sa mémoire avec l'histoire du nazisme, a accéléré le processus d'une manière extraordinaire depuis 2 ans. On l'a entendu aujourd'hui avec Nalen Snop, qui était présente et qui vient de Francfort. L'Italie et l'Espagne et le Portugal sont encore très réticents à regarder cette histoire. En fin de compte, tous ces pays sont en mouvement sur cette question. Et la France, d'une certaine manière, a fait un pas énorme avec l'histoire des restitutions, a fait un pas très important avec la commission sur le Rwanda, avec le travail de Benjamin Stora sur l'histoire de l'Algérie, mais elle peine à aller vers l'avant et elle peine, d'une certaine manière, à passer maintenant à la seconde vitesse, si vous préférez, de cette prise de conscience nationale. Comme s'il y avait encore un mur, un obstacle à passer. Et là, on est dans cette année charnière. Le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, on le voit bien, on est rentré dans autre chose. La jeune génération ne veut plus attendre.
Alors, on va écouter une chanson culte, et cette chanson, je sais que tu la connais, cette chanson-là, elle témoigne de l'organisation des Congolais pour aller vers une véritable indépendance, même si les choses seront beaucoup plus dramatiques quelques semaines plus tard.
Indépendance, tcha tcha, Kozoumiye, Oki Kwanza, tcha tcha. Yeah.
C'est le titre, chanson culte, indépendance cha-cha, signée du Grand Calais, Joseph Cabasélé. Puis il y a une deuxième chanson également, seconde chanson qui vient marquer cette période-là, cette époque-là. Le titre, c'est Table Ronde. Ce sont donc toutes les discussions qui ont lieu à Bruxelles autour de l'indépendance. Et c'est à ce moment-là, justement, que les leaders congolais présents à Bruxelles demandent la libération de Lumumba et Lumumba qui les rejoint. Et la suite, nous la connaissons, le 30 juin 1960, le discours qu'il ne fallait pas faire. Il fait ce discours-là et c'est un leader qui signe son arrêt de mort à ce moment-là. Beaucoup plus tard, le 15 octobre 1987, un homme qui a pris le pouvoir par les armes en Haute-Volta, en République voltaïque, qui deviendra le Burkina Faso, est lui aussi assassiné. Et la perception que l'on a de lui, c'est un homme qui veut changer l'ordre établi. Il veut changer cet ordre néocolonial et cette présence française. Mitterrand, même s'il semble avoir un propos un peu condescendant vis-à-vis de lui, mais je pense qu'il a, il a du mal à accepter l'outrecuidance, le manque de déférence du personnage à l'égard de la France. L'assassinat de Thomas Sankara, c'est la suite de la colonisation.
C'est le passage entre deux temps. C'est à la fois la suite de la colonisation et le fait qu'on ne reconnaît pas ces nouveaux leaders qui arrivent avec un regard critique, avec une nouvelle manière de penser et qui n'ont pas été mis en place par le pouvoir colonial au lendemain des indépendances. Et c'est en même temps le refus aussi en Afrique d'un espace démocratique nouveau. Vous avez ces deux... Dans Thomas Sankara, et je l'appelle Thomas, dans Thomas Sankara, il y a les deux histoires. Il est déjà en train de nous raconter l'histoire de, ces, de ce qui va se passer dans les années 90 dans beaucoup d'États africains, avec une nouvelle génération politique qui arrive et qui refuse, je dirais, les États théocratiques, organisés, non démocratiques, avec des partis uniques. Il arrive avec une autre vision, et même lui, de temps en temps, il serait un peu trop radical, rappelons-nous. Et en même temps, il est en rupture totale avec l'histoire
coloniale. Est-ce qu'il ne fallait pas l'être, justement, pour être en rupture totale?
Mais sans aucun doute, et vous le savez comme moi, qu'il ne faut jamais faire d'anachronisme et replonger dans l'époque. Mais en tout cas, il est un Spoutnik. Il est le premier qui ressemble à ce qu'il est. Il est le premier qui dit non au système mis en place dans beaucoup d'États et non au système colonial à la tutelle des vieilles puissances. Et il ne le dit pas à n'importe qui. Il le dit à François Mitterrand, qui a été le plus grand ministre des colonies en 1950-51 de la France d'outre-mer.
Et qui ne souhaitait pas aller justement vers l'indépendance de l'Algérie. On l'oublie souvent.
Ah, il a souhaité aller vers aucune indépendance, on peut même le dire, cher Claudicia. Et ça, on l'oublie. Et la gauche française ne s'est jamais remis, d'une certaine manière. D'ailleurs, si vous voulez rendre mal à l'aise un socialiste français, vous lui demandez de parler de Mitterrand le colonial. Et vous êtes tranquille, vous avez un long silence au micro.
Ouais.
Et ça fait partie de notre histoire commune. Et c'est là où on voit que l'histoire coloniale, elle dépasse les frontières habituelles dans ce pays, la France, des frontières politiques habituelles. C'est beaucoup plus complexe que de penser qu'il y a le bien, le mal, le pour et le contre, et que d'une certaine manière, on se positionne aisément. Non, chaque homme ou femme politique héritière du passé et de ses passés a une difficulté à appréhender dans le présent ce récit, parce que justement, il est prisonnier quelque part des images d'hier.
Pascal Blanchard est notre invité exceptionnel, histoire globale de la France coloniale. Je voudrais qu'on évoque l'outre-mer, les Antilles, mais qu'on évoque surtout la Guyane, sol sur lequel il y a encore les autochtones, ceux à qui on a pris la terre ancestrale, donc la Guyane française. Je voudrais parler de la Kanaky, que l'on appelle, qui a été rebaptisée, qui est la Nouvelle-Calédonie. Les descendants des autochtones, les Kanaks, sont toujours là. Est-ce que la France n'aurait-elle pas pu s'enorgueillir de libérer, justement, de trouver un autre système en acceptant ce que les Kanaks souhaitaient, même s'ils sont aujourd'hui minoritaires sur leur terre ancestrale, c'est-à-dire aller vers une autonomie, vers l'indépendance?
Mais tu le sais très bien que nous sommes encore en train de vivre ça dans l'actualité.
Totalement.
Qu'est-ce qui s'est passé avec les trois derniers référendums? Quels sont les débats d'il y a quelques jours où Madame la Première Ministre, Elisabeth Borne, était en plein débat avec justement le devenir de la Kanaky et le devenir de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'endroit où on se place? Rappelons-nous ces débats qui ont traversé, on l'a un peu oublié, 10, 15, 20, 30 dernières années de Ouvéa à nos jours, montrent que l'histoire coloniale est quelque part non terminée. Je racontais un jour à un diffuseur en télévision, quand il me disait « Oui, on va parler des territoires qui sont devenus indépendants. » Je dis « Vous savez, le conflit des années 50-60, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, aux Comores, qui étaient encore des territoires français à l'époque, comme en Polynésie et autres, c'est la même histoire, sauf qu'ils ne sont pas devenus indépendants. Elle fait partie d'une histoire globale. Il faut la regarder comme une histoire globale dont les récits finaux ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Et personne ne pouvait prédire, en 1945, ce que serait le devenir, je vous rappelle, du seul empire colonial au monde qui a toujours des territoires ultramarins aux quatre coins du monde. Ce n'est pas une mince histoire.
Et lorsqu'on parle d'ultramarins, on parle, entre autres,
voire surtout des Antilles.
Il y avait un négro tout seul et déjà costaud, il venait de la Martinique. Entra comme chasseur chez une marchande de fleurs qui avait une jolie boutique. Il eut comme vêtement un costume rouge éclatant. Elle lui dit c'est des patons. Ça t'en plus joli que le costume de ton pays. Le petit négro répondit ya 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 à la Martinique, Martinique, Martinique. Pisac ici, pisac ici. Pas de veston, de code de pantalon. Simplement un tout petit caleçon. Il y en a du plaisir, du plaisir, du plaisir. Jamais malade, jamais mourir. On tourne le caleçon pour l'île des soirs et tout le monde est en noir.
Connaissez-vous la Martinique? Connais-tu là-bas le bongo? Dès qu'il entend jolie musique, le voilà debout, tout de go, pour danser avec demoiselles. Oh, c'est un galant d'un oiseau. Demoiselle, tu as des ailes quand tu fais begin a bongo, oh mami, mami, begin a bongo, oh mami, mami, begin a bongo.
Viens plutôt chez moi, j'y serai bien aimable, j'y tifferai couscous et bon racaout, et j'y t'y prendrai comme ça dans mes bras, tu seras content, beaucoup tu verras. Les roumis, si bien mon ami, les balaïchas, y'en a pas de fille.
Pascal Blanchard, blind test, as-tu reconnu quelqu'un parmi ces trois extraits?
Alors la dernière, je la connaissais pas. Je
viens de la. Grande comédienne et. Ouais.
C'est qui?
Lucienne Boyer.
Je l'ai pas reconnue, je la connaissais même pas ses paroles, elle est
ouais.
incroyable.
Ouais.
La deuxième, j'ai un petit doute, vas-y, mets-moi sur la piste.
Alors juste dire que ouais. Lucienne Boyer, cette chanson-là, c'est Estampe marocaine.
Ouais, je la connaissais pas.
Et auparavant. Grand chanteur français.
Tout à fait.
Probablement le fou chantant.
Ouais.
Charles Trenet.
Charles Trenet. Mais je me disais aussi, il y avait des petits airs et autres.
Oui.
On doit être dans les années. Il le chante dans les années. Fin des années 30.
Oui, elle est. Oui,
elle exactement. Doit être fin des années 30. Ouais. Et la première, je veux dire que j'ai reconnu les paroles, je les connais, mais j'ai pas reconnu le chanteur.
Alors, Begin a Bongo pour, oui. Pour Charles Trenet. Et le premier, alors.
On dirait l'expo. Ça doit être autour de l'expo coloniale ou la grande.
Alors, la première chanson, celle de Charlus, qui est probablement ouais. une des chansons. Moi, je me souviens étant gamin dans le métro, mais vraiment, j'avais ouais. une dizaine d'années, et avec un clochard qui chantait à la Martinique, Martinique. Ouais. Et je ne connaissais évidemment pas la chanson. C'est bien plus tard que j'ai découvert cette chanson de Charlus. C'est 1925, c'est dans ouais. ces années-là. C'est au moment où Josephine Baker arrive.
Exactement, et c'est le moment où la Begin dans les années 30, va de fin 29 à 1930 avec l'expo coloniale va complètement venir à la mode. C'est le moment où on a un nombre de chansons sur la Guadeloupe, la Martinique, complètement incroyable.
Exactement.
Et si vous entendez bien les paroles, il se moque aussi des tenues des personnes qu'on découvre avec l'exposition coloniale 31 où tous les gens viennent voir en fin de compte au pavillon de la Guadeloupe, au ouais. pavillon de la Martinique, ces danseuses qui servent aussi à table, cette ambiance qu'il y a, la Begin qui est jouée. Et d'un coup, c'est la découverte d'une culture aussi, avec ce côté moquerie qu'ils montent dedans. Et là, on se dit, oui, le regard qui était posé, je vous le rappelle qu'à l'époque, Guadeloupe, Martinique, les gens votent.
Oui.
Ils sont citoyens français.
Il y a une monnaie, il y a une monnaie en
sieste.
Ouais, il y a une monnaie
donc
en
sieste. Vous voyez que le regard, il est tout autant caricatural que sur la population africaine.
Sauf que les chansonniers que ouais. l'on a écoutés, ces chansons racistes, très, très clairement, aujourd'hui ouais. en tout cas, perçues comme bien telles, si on faisait une comparaison avec les peintres, lorsque Picasso, lorsque Modigliani s'inspirent de justement de ces expositions coloniales, de ce qu'ils voient, qui inspirent leur travail, on n'est pas dans une moquerie, on est vraiment dans quelque chose qui inspire leur travail. En musique, on ne peut pas dire que ce soit d'une grande qualité.
Non, parce que le grand public, quelque part, est demandeur d'une musique qui, à l'époque, doit passer par des prismes de production ou de radio. Et donc, ça veut dire que ce que pouvait être la chanson de la rue,
ouais.
un peu critique, n'est pas passé. Les artistes dont vous parlez, à l'époque, c'est des parias. Ils sont pas. Le succès, ils vont le connaître très tardivement. Ils vont s'emparer de l'art nègre, par exemple, pour devenir et le sublimer à travers leur peinture. Je pense à Picasso,
ouais.
qui achète ses cartes postales en 1907 et qui va faire les Demoiselles d'Avignon. Mais c'est très tardivement qu'on va reconnaître ce lien entre cette culture, ces formes, qui vont totalement révolutionner les arts et ce qu'il apporte à la culture. Dans l'instant T où il produit ces éléments-là, on ne arrive pas à comprendre ce syncrétisme culturel.
Pascal Blanchard, très vite, le déboulonnage de statues.
Non. On ne tue pas le patrimoine, parce que sinon, qu'est-ce qu'on racontera à nos petits-enfants dans 30 ans pour leur expliquer ce qu'a été la colonisation? Je veux des plaques, je veux de nouvelles statues, je veux qu'on puisse les expliquer, je veux qu'on puisse les critiquer, je veux qu'on les mette dans des musées. Ah, je serais d'accord. Mais si on les déboulonne et si on les détruit, nous ne pourrons plus jamais raconter à nos petits-enfants ce qu'a été la colonisation.
Histoire globale de la France coloniale, aux éditions Philippe Rey, signé Nicole Bancel, Pascal Blanchard, donc Sandrine Lemaire et Dominique Thomas. 812 pages, c'est extraordinaire, parce que merci d'avoir rappelé que dans cet ouvrage-là, il y a des écrits de femmes et d'hommes de partout. Oui. Et l'idée, ce n'était pas d'aller dans le même sens, mais d'avoir plusieurs informations pour comprendre.
Et même des fois, pas être d'accord, et c'est très bien. Oui. On lit d'abord pour ne pas être d'accord.
Exactement.
Et après, on peut croiser les regards et les histoires.
Terminons avec cette question du début. Et j'ai souhaité que tu ne nous répondes qu'à la fin de l'entretien. La colonisation est-elle un crime contre l'humanité ?
Elle n'est pas globalement un crime contre l'humanité. Certains moments de la colonisation ont été des crimes contre l'humanité. C'est tout ce qui fait la différence avec l'histoire de l'esclavage. On n'allait pas aux colonies pour tuer, on allait aux colonies pour exploiter. Ce qui n'a pas empêché que quand l'exploitation n'était pas possible, on a tué. On a violenté, on a torturé, on a massacré et on a pillé. Il y a donc des crimes de l'humanité dans l'histoire coloniale. Mais toute l'histoire coloniale n'est pas un crime contre l'humanité. C'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut encore une génération de travail pour arriver à dénouer ces nœuds, pour surtout mettre précisément le doigt sur ce qu'a été la colonisation.
Est-ce qu'un groupe humain s'attaquant à un autre groupe humain en le privant de ses territoires, est-ce que ce n'est pas un crime contre l'humanité ?
Non, parce que sinon nous n'aurions plus la hiérarchie entre un génocide, un crime contre l'humanité, une exploitation, une violence, un crime de guerre. Le droit nous a appris à faire la distinction pour justement pouvoir expliquer à nos enfants demain la différence qu'il y a entre différents types de violences. C'est très compliqué parce que ça touche autant à l'émotion qu'à la raison.
Les juristes et les historiens ont encore énormément de travail et de pain sur la planche. Merci infiniment, cher Pascal Blanchard,
merci
d'avoir été avec nous. À certains moments, tu m'as vouvoyé, puis tu es revenu.
Oui,
mais tout va bien. On se quitte et c'est une exclusivité avec Tiken Jaffa Coli, extrait de son nouvel album, le titre « Colonisé ». Merci Pascal.
Merci.
Oh yeah, yon go colonisé. Oh yeah, so go colonisé. Oh banaka yon go colonisé. Akerate, exploité. Mo akerate, exploité. Somewhere to re. Oko kamason. Sumanguru kante. Oko kamason. Patrice Lumumba, Oko Kamason, Sékou Touré, il a dit non. Sogoye, yongo colonisé, Mogoye, Sogo colonisé, Mogobanaka, yongo colonisé, Akerate, exploité, Ngo Akerate. Sumanguru kante, Oko Kamason, Sékou Touré, Oko Kamason, Malcolm X, Oko Kamason, Martin Luther King, il a dit non.
Bon, dis donc, c'était bien, c'était même super. On se retrouve demain, hein?